C'est la deuxième heure du 1182e Sweet Home Chicago avec l'interview de Diabolo, Diabolux. Je suis au téléphone avec Diabolo, Diabolux, Diabolo, Diabolique sur la radio du diable. Bienvenue, ici c'est Radio 666.
Salut Marc.
Bienvenue à Diabolo sur Radio 666, parce que tu sais que c'est quand même la radio du diable ici. Hein,
oui, ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas.
Et donc Diabolo, Diabolo qu'on va découvrir ensemble ou redécouvrir pour ceux qui te connaissent. Ils sont des millions, hein, parce qu'il y a des tas de gens qui te connaissent, même sans forcément pouvoir poser un nom. Mais en tout cas, on t'a entendu jouer de l'harmonica voilà, depuis des années, derrière plein de gens. Hein.
Bah oui, bah surtout j'ai débuté dans les années 80, début 80, donc aussi bien dans la rue, après Higelin, etc. Mais bon, il n'y avait pas grand monde encore, il y avait peu d'harmonicistes.
Exactement.
Et après, bon, maintenant il y en a une ribambelle et des excellents en plus. Donc,
il y a de la concurrence, hein, c'est vrai.
Absolument.
Même en restant en France. Hein.
Ah oui, il y en a plein, maintenant c'est énorme. Et puis bon, de tout style, hein. Bien sûr, beaucoup de bluesman évidemment, mais c'est énorme.
Et puis il y a une demande de la part d'artistes qui font partie d'autres sphères que le blues. Il y a une demande pour l'harmonica et qui existe depuis, tu l'as dit, les années 80 et qui continue. Je pense qu'il y a toujours moyen de jouer de l'harmonica, pas que blues, on est d'accord, Diabolo?
Ah non, bah oui, puis surtout moi j'ai des registres, j'ai plein de pédales, plein de trucs, des effets qui font que, au contraire, moi j'aime bien aller dans les trucs, même la musique contemporaine, le rock bien sûr, mais aussi ça peut être du reggae, ça peut être... vraiment d'autres styles, au contraire.
On va découvrir tout ça tous ensemble. Et puis d'abord, si tu me le permets, peut-être citer le tout début de ta biographie qui démarre avant ta naissance. Ça, c'est pas banal, hein. La plupart des biographies ne mentionnent même pas, hein, quand on fait des recherches sur des artistes.
Il faut bien commencer par le début. Hein.
Et oui, et je pense qu'on a tous commencé pareil, d'ailleurs, on va s'en rendre compte tout de suite.
Absolument.
Et là, j'ouvre les guillemets, c'est toi qui parles. On est en octobre 1961, une terrible tempête me réveilla ainsi que mes frères et sœurs. Nous fûmes poussés par un vent d'extrême excitation, un large cri subtil me décida enfin à partir de ce corps moite qu'était mon père. Je dévalais un canal d'acier ultra poli par de nombreuses tempêtes précédentes et j'aperçus dans la descente, bien que rapide, que j'étais décoiffé. Les cris se succédaient et résonnaient d'une violence très animale. Beaucoup de mes frères et sœurs s'accrochaient en vain à la paroi, mais rien à faire, nous avions atteint une vitesse vertigineuse. En bas de ce toboggan, un autre paysage s'offrit à nous. Quelques charmantes hôtesses, au sourire gélatineux, nous accueillirent dans une grande piscine chauffée où je n'avais pas pied. Entre parenthèses, je n'arrivais pas à distinguer la marque de leur parfum. Bref, revenons à nos têtards. Je constatais autour de moi beaucoup de cadavres. Une seule chose à faire, nager et sauver sa peau. Une vedette arriva vers moi à allure rapide. Une des hôtesses me donna la main pour me monter à bord. Une autre me donna un coup de peigne. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais une chose était sûre, c'est que ma vie allait changer. Je ferme les guillemets. C'est ainsi que démarre ton existence, Diabolo, c'est bien ça, hein?
Oui, même à toi, même à, je crois, toute la planète, en tout cas.
Mais exactement.
Ça m'est venu un jour, et j'ai dit, bien, il faut commencer par là, et puis voilà.
Alors, par rapport à ça, outre le côté désopilant, effectivement, de la présentation, je voulais savoir si tu t'étais plus ou moins... ou pas du tout, inspiré d'un film de Woody Allen des années 70 qui s'appelle « Tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander », fin du titre.
Ah non, pas du tout, ça m'est venu un jour, tout d'un coup, et ça je l'ai fait en 3 minutes, 5 minutes, d'un trait comme ça, non. En plus, j'ai ce film, je ne l'ai même pas vu, je le connais de nom, mais je ne l'ai jamais vu.
Alors,
mais non, ça m'est venu comme ça. Bon,
moi, ça m'a vraiment fait penser à cette scène où Woody Allen, évidemment.
Ah, c'est possible, ouais. Je le regarderai, le film, alors.
Et oui, il est déguisé en spermatozoïde, il est avec tous ses copains, là. Enfin, bon,
ah bon
ça, je te passe la suite, parce que sinon, on va spoiler le truc. Et puis, on arrive ensuite au 29 juin 1962 à Paris, où, effectivement, tu perturbes le repas de tes parents, puisque tu nais à 13h15, pour être tout à fait précis.
Exactement. Alors, une heure banale, mais bon.
Diabolo, harmoniciste à tête chercheuse, c'est ainsi que l'on te qualifie, ou que tu te qualifie
que je me qualifie, justement, parce que justement je fais pas que du blues et j'aime bien aller dans tous les registres, dans, surtout moi j'adore le son et donc j'ai plein de pédales pour aller faire des sons, j'aime ça en tout cas, aller ailleurs un peu.
Et alors, est-ce que c'était le cas déjà à ton enfant? Je sais que tu as démarré assez tôt la musique, l'harmonica, la première fois que tu as fait toucher à l'harmonica.
Non, j'ai pas démarré tôt, au contraire, non, parce que j'ai commencé vers 17 ans, 16 ans, 17 ans.
Oui, d'accord.
C'est pas à 7 ans comme peut-être des violonistes le feraient, mais non, j'étais coursier dans Paris à 16 ans, parce qu'on avait le droit de le faire, et donc après, à un moment donné, un copain me donne un harmonica. Bon, alors tous les feux rouges, je jouais de l'harmonica. Et un jour, j'ai eu vraiment comme un flash, un déclic. J'ai jeté la mobilette et puis j'ai attaqué les wagons du métro, tu vois.
Ah oui.
Et donc, je me suis trouvé un look, mais vraiment comme si c'était écrit, tu vois. Et donc, je me suis maquillé, je me suis mis vraiment avec des fringues pas possibles, des Santiago bleus, et puis j'ai acheté un petit ampli, un micro, et là j'ai commencé vraiment à attaquer les wagons. Alors je jouais comme une patate évidemment, mais bon, j'avais tellement l'envie, tellement je me sentais habité dans ce personnage, toi, un peu.
Mais alors c'est à l'époque où tout était permis, on était à la fin des années 70, Diabolo, c'est ça?
Oh non, on était exactement, ça a démarré, j'ai fait 3 ans là, j'ai joué dans la rue 3 ans en 80, 81, 82.
D'accord, tout début des années 80. 83, effectivement, voilà. Encore à cette époque-là, je pense qu'on pouvait faire plein de choses. Il y avait un film qui sortait à ce moment-là, je ne sais plus l'année, c'était Marche à l'ombre. Tu parles de jouer dans le métro.
Oui, bien sûr. Ah, oui. Il y avait beaucoup. On était très, très emmerdés par la police. Moi, il m'arrivait plein de trucs monstrueux. Parce qu'après, j'ai trouvé un bassiste et un guitariste et on a formé un petit trio. Et l'hiver, on jouait dans le RERB à Châtelet en bas, et les flics venaient, parce qu'on avait un monde de dingue, et les flics, ils venaient, on voulait pas arrêter, ils me coupaient le fil de mon micro au ciseau, ils nous arrosaient de lacrymogène, ainsi que les gens, c'était même très dangereux, ils pouvaient tomber sur les quais, c'était n'importe quoi, toi. Mais, oh là non, on a été souvent au commissariat.
Et est-ce que c'est suite à ça qu'il y a eu, en fait, une espèce de loi qui disait que si tu veux jouer dans le métro, il faut t'inscrire, il faut faire une demande, il y a une liste d'attente, machin, c'est plus spontané maintenant.
Mais en tout cas, c'est vraiment à cette date-là qu'il y a eu ce badge-là, où il fallait faire un casting un peu. C'est sûr qu'on est, je sais que j'ai appris par un copain qui travaillait chez SNCF, à la RATP, qu'on était vraiment sur la liste rouge en tant que musicien dans le métro et même sur les places de Paris, toi. Ouais. Donc, ils nous aimaient pas du tout, dans le métro, mais bon.
Et alors, pour rester quelques secondes sur cette période métro, c'était quel style que tu jouais? Tu faisais un peu de tout? Tu faisais des reprises?
Alors, à l'époque, déjà, vraiment avec mes copains qui eux jouaient déjà un peu de rock et qui étaient un petit peu plus âgés que moi. Donc moi j'ai appris vraiment à suivre. Donc il y avait vraiment des Rolling Stones, des surtout du ce que j'adorais, Nine Below Zero. Wishing my time about going to school. The way you got me rolling about, I can't do my homework anymore. My homework anymore. Well, baby, yeah, she got me so bad. I'm walking around a circle, about to lose my mind. The way you got me rolling about, I can't do my homework anymore. Connais.
Ah oui, bien sûr, un groupe super bon anglais.
Qui a été un de mes inspirateurs, je pense, avec Sugar Blue et Magic Dick de Jiggles Band.
Yes.
C'était des harmonicistes électriques, donc là, j'ai écouté les morceaux, j'ai essayé de dire à mes potes, allez, on essaye de les refaire comme on pouvait, et puis petit à petit, ça a commencé à tourner bien, et puis voilà, blues, reprise, disons.
Ouais, voilà. Il faut absolument acheter le Live at the Marquis, hein, par exemple, de Nine
Below Zero. C'est excellent. Hein, ça a été vraiment... Qu'est-ce que j'ai bossé dessus.
J'imagine. Alors, Jiggles Band...
Et Sugar Blue aussi.
Et Sugar Blue, effectivement. C'était quelques années après qu'il ait fait ce fameux Miss You avec les Rolling Stones.
Oui, absolument.
Qui aurait dû le rendre millionnaire, d'ailleurs. Puis c'est bien fait à voir, quand même. Hein, c'était un peu l'histoire.
Oui, je pense qu'il il a dû certainement avoir un très bon cachet. Mais bon, je sais pas comment ça se passe. Mais bon.
Et alors, ensuite, voilà, toutes ces influences qui font qu'on lorgne plus ou moins vers le rock. Et on va dire, en 1983, tu as 21 ans. Et là, tu fais une rencontre majeure, parce que c'est un artiste qu'elle vend en poupe à l'époque. Il s'agit de Jacques Higelin.
Absolument.
Comment se passe la première rencontre, Diabolo?
Eh bien, déjà, je t'explique depuis le début rapidement. Oui. J'étais dans la rue en train de jouer, et puis tout d'un coup, il y a un public que je ne connaissais pas, Patrick Verbeek.
Oui.
Et il vient me voir après un set, et il me dit, oh, tu pourrais faire une radio avec moi, j'aime bien ton jeu, tout ça. Ah bah oui, avec plaisir, c'était ma première radio de ma vie, j'étais trop heureux. Et puis, c'était un truc avec Jean-Louis Fouquier, tu vois.
Oui, génial.
Avec lequel on est devenu vraiment très, très copains par la suite. Et puis, il m'a dit, tiens, Fouquier m'a dit, tu devrais aller ce soir à l'Eldorado, qui était une espèce d'ancien cinéma où il y avait des jams, tu vois, des jams.
D'accord.
Il y avait des Higelin, Bachung, Sapho, Lavillier, tous ces artistes un peu... C'était un peu...
Je vois très bien, je vois très bien, effectivement.
Et puis, on a, après une manche, un soir, on a été boire une bière, et puis à coup, il y avait Jacques Higelin que je ne connaissais même pas, ni de nom, ni parce qu'on était un peu dans notre bulle, nous, dans la rue.
Ah oui.
Et puis, il faisait un morceau qui était, après, je suis banlieue boogie blues. Banlieue boogie blues. Et puis, comme il faisait toujours, hey, il n'y a pas un mec qui veut venir faire le jam avec moi, hey. Et puis moi, quand j'entends le truc au piano, Boogie, ouais, moi, monsieur, j'étais comme un petit garçon, quoi. Et puis, genre là, j'ai joué, waouh, comme un fou, il y avait un super son que je connaissais pas. Des retours, tout ça, donc j'étais trop heureux. Et puis, donc après le morceau, j'ai dit bon, au revoir, monsieur. Et puis, il y a son frère, Paul Higelin, à l'époque, qui est venu me voir. Il dit tiens, Jacques serait intéressé que tu viennes faire le casino de Paris pendant 4 mois. Et moi, je dis non, moi, je peux pas. Demain, je joue dans la rue, c'est pas possible, tout ça. Donc, il m'a dit, il rigolait, mais bon, il m'a laissé une espèce de carte ou un truc. Et il s'avère que 2 semaines après, le guitariste avec qui jouait, Sunday, il s'est suicidé. Voilà. Donc ça a bouleversé un peu notre trio, on était un peu largués, puis finalement j'ai appelé, et c'est là qu'a démarré Higelin. Et donc après, première convocation, c'était au Château d'Hérouville, pour commencer à répéter.
Ah oui, ah ben, voilà. carrément. Et alors, ouais. je reviens juste au moment où il te passe la carte, tu dis, mais de toute façon, moi j'ai déjà un taf, je joue au métro, ça ne m'intéresse pas de faire 3 mois au Casino de Paris.
Oui, parce que moi j'étais avec mes frères, mais toi, c'était ma famille, on était vraiment...
Parce que lui, il te voulait toi, mais pas tout le monde, c'était
que toi. Ah bah non, parce qu'en plus, j'étais tout seul à venir faire le bœuf, si tu veux.
Tout à fait.
Donc, voilà, s'il a vu l'harmoniciste, il dit, tiens, bon, ça ferait bien dans le spectacle, je sais pas, où mes copains n'avaient pas joué à ce moment-là.
D'accord. Et donc, à ce moment-là, démarre une carrière avec de grosses scènes. On a cité le Casino de Paris, on peut parler de Bercy aussi, ça s'est passé
en 85, pendant un mois.
Il y a une tournée, Higelin, ou plusieurs y a
Ah eu... oui, oh, j'en ai fait plusieurs. J'ai joué à peu près 8 ans. C'est ça. 8 ans avec Jacques, donc tu vois, avec des espaces un peu, mais grosso modo 8 ans. Donc oui, il y a eu beaucoup de tournées à l'étranger aussi, au Canada, en Afrique, on a fait pas mal de dates ensemble.
Voir de l'action.
qu'est-ce que tu retires, maintenant qu'il s'est passé une petite trentaine d'années depuis que tu ne joues plus avec Feu Jacques Higelin, qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience de grosse scène et puis de partage avec les musiciens professionnels qui ont pu l'entourer?
Ah ben, ça a été vraiment pour moi, j'ai goûté à la scène, aux lumières, au public, aux grosses scènes même. Comme la fête de Lima, tout ça. Et donc, après, je voulais faire que ça. Je voulais jouer d'une façon... Déjà, le son, j'ai compris que le son n'était pas un son pourri comme dans la rue on avait. Oui. J'avais envie de continuer dans ça. Et puis surtout, j'ai fait des rencontres, pas beaucoup de rencontres à ce moment-là. Et puis bon, ça m'a fait vraiment, à l'époque, vraiment connaître cette partie d'Higelin, cette époque de Jacques, toi.
Est-ce qu'on pourrait comparer cette expérience, celle que tu as eue dans les années 80 avec Jacques Higelin, est-ce qu'on peut la comparer avec celle des années 2000 que Greg Slapp a pu connaître pendant 10 ans avec Johnny Hallyday?
Oui, c'est un peu ça, c'est ça, exactement, oui.
Ensuite, Diabolo, tu vas quitter cette formation, c'est de toi-même que tu parles?
Oui, à un moment donné, si tu veux, je bouillonnais, je m'ennuyais un peu même à la fin.
Ah ouais.
Et donc j'avais envie de faire autre chose, de découvrir d'autres musiques, d'autres musiciens. Et donc, j'ai dit à Jacques, excuse-moi, faut que je m'en aille. Il a très bien compris. En plus, un harmoniciste, en moins, pour lui, c'est pas dramatique. C'est comme un soliste. Donc, le guitariste Pierre Chérez me remplaçait. Il n'y avait pas de problème. Voilà.
Oui.
Et puis, je suis parti un an à New York et au Canada, à Montréal.
Et c'est là que tu fais la rencontre d'un certain Robert Deschênes, un peintre.
Absolument. Ah oui, qui a beaucoup marqué ma vie. Parce que c'était un performeur, un mec qui peignait aussi des tableaux magnifiques et qui peint encore. Il est toujours là, il est toujours à Montréal. Et j'ai connu ce qu'on appelle des performances. Alors là, c'était bien, il peignait sur des bagnoles, il faisait plein de trucs, c'était vraiment...
Et donc une performance, pour les gens qui ne sont pas au fait de ça, qui s'y connaissent uniquement en musique, par exemple, c'est quelque chose qui va mêler plusieurs arts et c'est un véritable spectacle, c'est ça.
Ben lui, si tu veux, je jouais pendant qu'il il faisait la peinture, ou il déglinguait des voitures, ou je ne sais pas, c'était une fusion peu de ça. Donc on a fait beaucoup de choses à deux, on a fait même le cirque d'hiver, on a fait pas mal de trucs, et puis on se régalait, parce que là je pouvais vraiment, là j'ai vraiment commencé à aller dans les sons, avec des séquences derrière moi, des trucs, je jouais tout seul avec lui, et donc pour moi c'était merveilleux, et j'en ai fait beaucoup dans ma vie avec d'autres personnes, j'adorais cette liberté qu'il y avait.
Mais je crois que c'est ça effectivement, Diabolo, qui transparaît dans ta biographie, c'est d'abord la liberté d'être capable de jouer avec quelqu'un comme Jacques Higelin, et puis la liberté ensuite de dire écoute, moi je vais partir, mon chemin s'arrête là et merci, au revoir. Cette liberté là que tu continues, j'imagine, à revendiquer?
Ah oui, absolument, oui, je me sens un peu comme un zébulon libre, un électron libre, et donc j'ai de plus en plus envie, j'ai tout fait ça toute ma vie, depuis 40 ans que je joue de l'harmonica, d'aller dans des histoires vraiment, je fonçais dans n'importe quelle histoire, même si c'était bizarre, tout ça, j'y allais, puis pour moi c'était un challenge, tu vois, de pas jouer un blues, faire d'autres choses, tu vois.
On n'a pas évoqué ce passage dans l'émission de Jacques Martin, c'était comment ce contact avec ce géant de la télé, et puis cette émission culte du dimanche après-midi?
Ça c'était toujours à l'époque, avant Higelin, c'était vraiment à l'époque de la rue, j'ai rencontré un clown rock qui s'appelait Charlie encore, ou Bébé Charlie, comme on peut qui lui continue sa carrière différemment. Et un jour, on faisait un sketch. Lui, il faisait du vélo sur un homme-traîneur, tu sais, et comme ça, il pédalait dans le vide. C'était un champion. Et puis un jour, il est venu dans la rue à Saint-Germain-des-Prés et dit je peux faire. Il avait une petite lampe devant, là, et puis il m'éclairait le visage comme ça à fond. Et puis on a fait plein de passages dans la rue tous les deux. Et puis ça marchait grave, toi. Et puis un jour, il me dit tiens, on va aller voir après Mévray, c'est pourquoi. Et puis on est allé à Wagram. Et puis pour essayer d'avoir une rencontre, tout ça. Et puis, bon, bien sûr, il n'y avait personne. Mais on a joué devant toutes les secrétaires, ça les a fait marrer et tout. Et puis, ils en ont parlé à Martin. Et puis, on a été convoqués 2-3 mois après. Voilà.
Et là, tu as fait ton apparition.
C'est un carton, là.
Au Théâtre de l'Empire. D'ailleurs, il y a des vidéos encore qui circulent sur le net.
Absolument, il y en a une qui circule, oui. Bien sûr, que j'ai mis sur YouTube.
Le diabolique Diabolo. Venu en droite ligne de Londres, où j'ai été le chercher moi-même cette semaine. Le diabolique Diabolo et son harmonica. Où sont-ils? Il est là. Alors, thank you very much. Diabolic Diabolo. Thank you. much, Mr. Diabolo. Bravo, ladies and gentlemen. Merci, monsieur. Thank you very much.
Incroyable, mais vrai. Et, c'est, voilà. Et ensuite, alors, on revient aux années 90, où là, tu fais plein de rencontres, tu l'as dit, tu es capable de t'adapter à plein d'univers, et tu veux te frotter aussi à plein d'univers musicaux ou artistiques.
Oui, me frotter, voilà, c'est le bon terme. Voilà. Et, là, et apprendre, toujours apprendre.
Apprendre et apprendre tous les jours, je pense que voilà, c'est aussi ton cas. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine, parce que jouer avec des gens aussi divers et variés que Relema, Manu Dibango, mais également Lloyd Cole, Jack No, Manao aussi, le groupe Manao.
Oui, Manu.
Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis le Big Bang, depuis que la Terre est ronde. Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis
Enfin, voilà, ce sont des univers très très différents. On a de la musique africaine,
oui.
On a de la variété, on a du jazz, on a du pop rock. Enfin, on a des choses complètement différentes les unes des autres. Et toi, comme un caméléon, Diabolo, tu t'adaptes et tu apportes ta patte à tout ça.
Oui, 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 parce que toujours je reste, quand je ne connais pas, toujours je reste humble. Je démarre toujours tout doucement. J'ai toujours démarré, même timidement d'une façon. Et puis ben, après, j'ai compris où était ma place dans ces morceaux dont j'ai pas souvent l'habitude de jouer, tu vois. Même avec, j'ai joué avec Allah, qui est un oudiste, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui fait du oud.
Du oud, ouais.
Qui est un magnifique musicien. Et donc, il me disait, tu vas jouer maintenant les notes du désert. Alors, j'ai essayé de trouver, comprendre ce qu'il voulait dire. Et puis, donc, à chaque fois, chaque histoire, j'essaye de vraiment m'adapter et de mettre ma patte, tu vois.
Et voilà, Diabolo, parmi toutes ces rencontres, il y a quelqu'un dont tu dis que, alors, je ne sais pas s'il a lui-même lu ta biographie, j'imagine que oui, mais tu serais capable de jouer gratuitement pour lui. Il ne faut pas lui dire trop fort.
C'est parce que. Pascal Mathieu. Bien sûr, oui, Pascal Mathieu, c'est un poète qui a Besançon, qui fait des textes merveilleux, drôles et surtout avec des jeux de mots incroyables. Et vraiment, et lui, j'ai accompagné aussi 2-3 ans et puis j'ai adoré. Et c'est quelqu'un qui galère un peu, dire que c'est pas facile pour lui. Et donc, j'ai toujours dit, c'est que quand tu veux, si tu as besoin de faire un concert, puis c'est bien que je viens et gratuitement, en amitié, amicalement, pas de soucis, frère.
Et voilà, et du fait que tu te sois rendu capable de jouer avec tous ces gens et puis d'apporter ton talent à l'harmonica, ça t'a permis pas seulement de faire de la musique et des concerts, mais aussi de préparer des albums, on s'en doute, mais aussi de faire des apparitions cinématographiques et de participer à des performances, des événements un petit peu partout, pour des marques, pour des grandes marques multinationales. Mais voilà, partout on a besoin de toi, tu es là, c'est ça.
Ben oui. Maintenant, je ne ferai plus pour les multinationales. J'ai un peu changé à ce niveau-là. Mais oui, à l'époque, je faisais beaucoup aussi de figuration, qui fait des fois m'ont amené à des petits rôles. J'ai toujours aimé la comédie, j'en ai jamais fait vraiment de ma vie, mais bon, c'est quelque chose que je regrette, que j'aurais aimé faire, plus approfondi, mais j'ai fait pas mal de petites apparitions comme ça, en Grève Party, dans des anti-sorcelles, Grève Party, parce que je connaissais Fabien Antoniente, tout ça, Manu Bose, qui était un peu des scénaristes, et ils m'ont placé dans des films, à droite à gauche. Ouais.
Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau formation personnelle, niveau satisfaction, le fait de pouvoir contempler ton visage sur le grand écran, par exemple, et puis d'en parler ensuite, tiens, t'as vu, c'est moi, là. Non ?
Oui, oh non, je suis pas comme ça, moi, j'aime pas me regarder, de toute façon. Oui, j'aime pas, souvent, j'aime pas trop me regarder. Et puis, m'écouter, ça va aussi, puis à part des fois, souvent, j'ai dû faire 130 albums dans ma vie, en participation, et puis, des fois, je suis très déçu des mixages qu'ils font, soit l'armo est très très loin dans le mix, alors, souvent, tu sais, quand tu fais une séance d'harmonica pour un artiste, en studio, t'as le son, t'es tout, oh, t'es sûr, et puis tu t'aperçois qu'après, quand le disque sort, tu vois, ils ont à l'harmonica, on va le mettre loin, ou il est mal équalisé et tout. Et donc, souvent, j'ai été un petit peu déçu des mixages. Mais bon.
Alors, plus de 130 albums en participation, avec, tu viens de le souligner, pas forcément la possibilité artistiquement de tout maîtriser.
Non.
Ça veut dire qu'on, à un moment donné.
Mais proposer quand même.
Ouais, et à un moment donné, on loue ton talent et puis on l'achète, on loue, je sais pas comment on peut dire.
Oui, comme pas mal de musiciens qui font des ce qu'on appelle des séances de studio, tu vois, qui jouent pour des artistes, on les appelle, ou des fois c'est du bouche à bouche, parce que moi j'ai pas de carte de visite, j'ai rien, et donc un copain m'appelle, tiens, il y a quelqu'un qui veut, comme Christophe, quand j'ai joué avec Christophe, c'est un copain qui me dit, tiens, il y a Christophe qui voudrait un harmoniciste, qui, tout ça, il pensait à toi, donc je dis, ah bah super, et je l'ai appelé, puis hop, ça a démarré comme
ça. C'est comme ça, voilà, en 2003, tu peux oui, jouer sur
des morceaux
absolument incontournables, ouais.
Ah bah oui, en 2003, quand on m'a dit, tiens, tu veux jouer avec Christophe, je dis, oh là là, ça va être pour moi un peu de la variété, je ne me rendais pas compte.
Ouais.
Et puis quand je l'ai vu pour la première fois, déjà, c'est un personnage, il a un charisme incroyable, il avait. Et puis on a fait, c'était une répétition pour faire le Rex le lendemain, carrément, parce que lui, il était comme ça, on répète la veille pour le lendemain.
Ah.
Je connaissais même pas, et donc on a fait un concert acoustique merveilleux au Rex, et là, ça... Et là, il me disait, tu joues dans les sons, tu fais des larcènes, tu fais tout ce que tu veux. Il avait confiance, il avait vraiment confiance.
D'accord.
Et donc, justement, c'était un des artistes que vraiment où je me suis le plus éclaté, vraiment. Ah,
parce que tu avais laissé la bride sur le coup, c'est ça l'idée?
Oui, et puis j'ai découvert ses chansons, parce que là, bon, c'était en 2003, il réarrangeait tout à chaque fois, donc c'était très moderne. Lui, il adorait le son, il passait des heures dans son studio à bosser sur le son, c'est assez connu, il travaillait toute la nuit, il bossait jusqu'à midi, il travaillait, après il se couchait. C'était un mec merveilleux, c'était le seul chanteur que j'ai vu dans ma vie qui avait un pédalier devant lui, tout avec toutes les réverbes qu'il voulait, ou les délais, tu vois, pour sa voix, parce qu'il n'avait pas confiance en ingénieur du son, parce qu'il connaissait très bien le son, et donc il choisissait ses trucs lui-même, comme un guitariste choisirait ses sons, pour sa voix.
Il décide au clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je vais lui dire les mots bleus, les mots avec les yeux, parler sans le ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. D'une rencontre. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne tout. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait un instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dis les mots bleus, ce qui rend des gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. De tous les longs discours futiles termine à quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent des gens heureux.
Christophe, effectivement, ça c'est un artiste
adoré,
majuscule. Ouais, il y a une autre artiste qui, elle aussi, on pourrait la qualifier d'artiste de variété au départ, qui n'avait pas commencé sa carrière tout à fait au début des années 2000, mais que tu as rejoint par la suite, qui s'appelle Patricia Cass.
Ah bah bien sûr, oui, c'est pareil.
Alors Patricia Cass, tu as fait plein de dates avec elle. Hein.
Ah oui, j'en ai fait presque 250 à peu près, 250 autour du monde. On a fait beaucoup de choses internationales, en Allemagne, partout, la Russie. Alors là, elle est partie 3-4 mois en Russie. Et vraiment, j'avais une place énorme, parce que c'était tous les morceaux, comme Mademoiselle chante le blues, tout ça, où il y avait beaucoup de place pour l'harmonica. Et donc, c'était merveilleux, parce qu'elle, c'est une femme merveilleuse. Elle n'est pas du tout show business, tout ça. Elle est très, très simple, plutôt assez mélancolique. Elle est toujours un peu tristounette. Bon, on sent que, je sais pas, elle est assez... parce que là, elle m'a expliqué qu'elle a toujours eu un peu la poisse dans sa vie. Je crois qu'il y avait deux frères qui s'étaient suicidés ou un. Elle a toujours des problèmes un peu, mais bon, ça se ressent parce que quand elle est sur scène, par contre, elle envoie le boulet. Elle chante merveilleusement bien et j'ai adoré cette tournée. Oui.
Et ce répertoire, là, tu viens de citer le titre Mademoiselle chante le blues, bien sûr, mais tu trouvais ta place à l'harmonica sur chaque morceau ou tu intervenais sur une partie du concert?
Disons, je faisais plein de morceaux, mais justement, le producteur m'avait dit, je ne paye pas un musicien qui ne joue que de l'harmonica.
Ouais. Ah, et donc
ça voulait dire quoi? Il dit, tu vas faire les claviers. Mais moi, je connais même pas une note de solfège, je sais même pas. Bon, je pianote comme ça, mais et donc je devais faire un peu comme un petit chef d'orchestre avec une MPC, c'est-à-dire pour lancer des séquences,
d'accord,
plus deux claviers à côté de moi pour faire des nappes, parce qu'il y avait un merveilleux Johnny Marr, je ne me souviens plus comment il s'appelait, qui faisait le piano. Mais moi, je devais faire des nappes, des petites mélodies comme ça. Mais c'était horrible pour moi au début en répétition. On a répété un mois à Zurich, et là, c'était les musiciens, c'était tous des Anglais, et ils me disaient, mais c'est qui ce clochard, ce mec là au clavier? C'est où le dos, je disais.
ça veut dire que pendant un peu plus de 40 ans, tu n'avais jamais entendu parler du solfège et tu n'en avais pas eu besoin finalement, Diabolo.
Non, bah, j'ai toujours bossé à l'oreille, mais bon, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé aussi sur ce qu'on appelle les...
Un genre de tablature pour les guitaristes, quoi.
Oui, des tablatures, exactement. Ouais. Voilà, j'ai toujours fait ça. Et puis surtout, toute ma vie, improviser. C'est à la fois une qualité, des fois un défaut, parce que bah, je suis surtout un improvisateur, mais des fois, quand il y a des choses un peu importantes à refaire, une mélodie, truc, il faut que je la bosse dans mon coin parce que c'est pas forcément, toi, c'est pas quelque chose d'inné pour moi.
Mais maintenant, tu sais où je trouve le dos sur un piano et sur un harmonica aussi.
Oui, absolument. Bah oui, oui, j'ai appris. Oui, oui, exactement.
C'est génial. C'est génial. Et puis ensuite, ben voilà, tu te replonges à nouveau dans le cinéma un petit peu, puis tu rencontres d'autres artistes. Alors, je parlais de jazz tout à l'heure, on n'a pas vraiment cité de musicien de jazz, mais il y a quand même Archie Shepp avec qui tu as travaillé.
Absolument. Ah oui, oui, Archie Shepp, c'était une très très belle rencontre parce que c'était vraiment une belle belle personne qui a une belle âme. Et qui a une voix, c'est dommage, il joue plus du sax, mais bon, maintenant, il est quand même assez âgé, il doit être pas loin d'avoir 80 ans.
Oui, c'est ça, oui.
Moi, j'ai joué avec lui en 2011, et donc, bon, et puis il avait un problème de santé, de jambes, je me souviens plus exactement, mais il était pas bon, mais quand il joue le sax, c'est waouh, c'est des notes graves qui transpercent le ventre, et surtout que les rares fois que j'ai entendu chanter, c'est il chante le blues, mais comme... C'est merveilleux, oui, oui.
Archie Shepp, je viens de regarder, en mai prochain, il aura 86 ans, le garçon, hein.
86,
il va avoir 86 cette année. Eh oui.
Oh la vache.
Et il continue.
Il joue, hein. Et puis lui, il est pareil que moi. Il joue avec plein de formations. C'est un genre d'électron libre. Il est, du moins, il n'a pas de groupe à lui. Un jour, New Yorkais l'appellent pour faire un truc. Tac. Moi, c'est ça que j'aime bien chez lui aussi. C'est qu'il va jouer. Je crois qu'il aime pas répéter les choses. Alors, il va faire 36 groupes dans l'année. Une participation là, un truc. Et
puis, il a pas mal collaboré avec un autre harmoniciste que tu connais forcément, qui s'appelle Charles Pazzi.
Oui, je le connais pas personnellement, mais j'ai écouté, très 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 belle personne aussi, ouais, et très, très bon harmoniciste, absolument.
On évoquait justement en tout début d'interview, Diabolo, quelques autres harmonicistes, là on parlait de Patrick Verbeek qui t'avait mis le grappin dessus dans ce métro, puis ensuite qui t'a fait rencontrer Gilin, etc. Mais c'est aussi au moment où il y avait très peu d'harmonicistes, tu le soulignais, à l'époque il y avait, à part Benoît Blueboy, je vois pas trop, peut-être Chris Lancry.
À l'époque il y avait, dans la rue aussi des fois, il y avait un groupe qui s'appelait les Stunners avec Mickey Blow. Il s'appelle Mickey Blow.
Eh bien oui.
Il joue avec Little Bob actuellement. C'est ça. Oui, exactement. Voilà.
Eh ben,
sans ça aussi, qui jouait des fois dans la rue ou dans des clubs déjà. Il y avait Vincent Buchet aussi.
Ah oui, qui est toujours actif.
Vincent Buchet, il joue énormément. Il y avait Jean-Jacques Miltos, bien sûr, mais qui était déjà très connu et qui faisait plein d'albums à l'époque.
Ouais.
Et donc, il y avait surtout Vincent Buchet, Benoît Blueboy, bien sûr. Voilà. Bien sûr, j'en oublie certainement.
On va en oublier plein. Et alors, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, il y en avait assez peu, finalement, on vient d'en citer 5 ou 6.
Oui.
Mais aujourd'hui, on pourrait en citer une bonne douzaine et tous d'excellents talents.
Ah non, hein. mais même des centaines d'harmonicistes. Hein.
Ouais.
Maintenant, mais c'est énorme, mais tous les jeunes qui démarrent là, j'en vois mais des dizaines, puis ceux qui ont démarré il y a 15-20 ans, il y a Richie Farey, mon copain, Marco Balland, par exemple, mais il y en a tellement d'harmonicistes.
Nico Wayne Toussaint ?
Oui, Rachel Place,
voilà.
Tout ça, c'est une génération, moi j'ai 60 ans, donc c'est une génération des 50, je pense, des 40-50 à peu près.
La génération d'après, effectivement, et puis ça continue. Et justement, Diabolo, c'est une question qui n'apparaît pas dans ta biographie, mais que je pourrais te poser, parce que toi qui adores les rencontres et toi qui adores les univers différents, est-ce que ça t'est arrivé de devenir prof d'harmonica?
Alors j'ai fait des fois des à Concarneau, j'ai fait deux masters de ce qu'on appelle, ou toi, des
masterclass,
d'harmonica,
ouais.
Mais le problème c'est que des fois je voulais en faire, mais moi je connais pas le solfège, et puis je suis tellement un improvisateur que j'aurais du mal à si quelqu'un me demande comment on fait ce morceau, comme Paul Lasset aussi, qui est un très très bon harmoniciste et un très bon pédagogue. Tu connais Paul Lasset, non? Peut-être.
Oui, Paul Lasset, bien sûr.
Il fait plein de vidéos sur YouTube.
Oui.
Et donc, vraiment, il pour apprendre l'harmonica, il est très très fort, oui. Mais non, moi, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait quelques cours, mais plutôt pour des copains, des choses comme ça.
D'accord.
Je me sens pas l'âme d'un pédagogue.
Mais en tout cas, même si ça passe pas par le solfège, et même si tu n'as pas l'âme d'un pédagogue, comme tu le dis, je sens quand même que tu aimes transmettre, quel que soit
contenu. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que j'adore pouvoir, plus je peux aider. C'est sûr que là, pour jouer avec des gens gratuitement, ça je l'ai fait des centaines de fois. Quand je dis ça gratuitement, je ne pense pas qu'au pognon, pas du tout. Mais je veux dire, il y a plein de groupes qui me disent, oh Diabolo, on n'ose pas te demander, mais tu pourrais venir faire un morceau sur l'album, mais bien sûr, et pas de souci. Non, non, au contraire, tout. Là, je joue avec beaucoup de jeunes en ce moment, et je suis ravi, et même avec des rappeurs et tout.
Ben oui, c'est ça qui ça va rejoindre une des dernières questions que je vais te poser, Diabolo, c'est quelle est ton actu? En ce moment, tu joues avec des plus jeunes, hein, ça devient de plus en plus possible.
Oui, là, j'ai joué avec Deezer de Rime, qui est un rappeur, qui était un mec très, très intéressant, qui fait des magnifiques textes, où je joue avec lui, j'accompagne aussi, j'ai des duos, parce que je joue des fois dans des bars ou des cabarets ou des petites scènes avec Marc Loy, Armel Lyons aussi, qui est une chanteuse. Je jouais avec Danilo, je jouais là, et là j'ai un groupe de Blue, qui s'appelle Blue Fever, que j'ai depuis 30 ans, mais qui s'est arrêté de temps en temps. Et là, on a une bonne actualité qui arrive, on a plein de concerts, on a un nouveau chanteur là, qui a mis une pêche d'enfer. Donc là, Blue Fever, ça va faire, je pense, ça va bosser un peu là.
Très bien, Blue Fever, on va écouter un extrait de votre répertoire avec Blue Fever.
Sometimes I don't know if I'm dead or alive. That is why I was born a rambling fool. 'Cause I got me no spending cabbage. Sure do things the world is cruel. Seems like I've been here such a long time before. I used to be a free man, could knock on any woman's door. Why, that is why I was born a rambling fool. No such a fool, 'cause I got me no spending cabbage. Sure do things over school that don't take it.
Gérard Lanvin. C'est pour ça que je parlais de Marche à l'ombre là, tout à l'heure.
Bien sûr, moi, Gérard, je l'ai connu à l'époque de 80-83, parce que j'ai connu, grâce à Higelin, on habitait dans la même rue que Coluche.
D'accord.
Et on allait tout le temps chez Coluche à l'époque, rue Gazan, à côté du parc Montsouris.
Ah ouais.
Et donc là, il faisait des fêtes et il y avait toujours Gérard. Et puis il me disait, et même Gérard me disait, mais moi, je suis dans les Halles, là, quand il va au Café de la Gare, il m'a regardé jouer dans les rues, dans les Halles, c'était rigolo. Donc, il me dit, je te connais déjà bien, Diabolo. Oh là là, je t'ai écouté plein de fois.
Et Gérard Lanvin et Coluche, c'était, il était aussi sympa qu'il en avait l'air dans la vie publique.
Absolument. Ah ben oui, ben c'est sûr. Ben, j'ai connu, moi, 5-6 ans, disons, avant qu'il meure, parce que c'était, moi, les années où je jouais avec Jacques, justement. Et donc, c'était vraiment... tu sais, il avait une maison de 1500 mètres carrés par niveau, là, rue Gazan, là, c'était énorme. Alors, il y avait que des fêtes tout le temps, des choses. Et lui, il était très... vraiment sympa, je veux dire, c'était peu d'imaginer, toi c'était un mec, je pense même des fois il y a des moments un peu malheureux, il y avait toujours Philippe Léotard là qui dormait chez lui, mais ça c'était pour décrocher un peu de l'héroïne, mais c'était toujours chez lui, il faisait les spaghettis, il y avait la bouffe, il y avait beaucoup de sportifs même, parce qu'il aimait beaucoup les sportifs, ses copains, les motards, tout ça, mais c'était toujours sympa, puis j'ai fait des belles rencontres, des gens là-bas sympas, Polnareff, Gérard Houroux, parce qu'il avait fait le film La Vengeance du Serpent à Plumes.
Oui, exact.
Et il avait fait la fête chez Coluche. Ah d'accord. Tous, là, toute l'équipe. Toi.
Excellent.
Et puis avec Jacques, on y passait tout le temps, aussi bien boire un café qu'un coup, que manger, que tard ou tôt, parce que ça se finissait tard toujours en général. Donc, voilà.
Ouais, j'imagine. Ces rencontres-là d'il y a 40 ans, ben, elles deviennent un petit peu légendaires maintenant, parce que ce sont des gens qui ont disparu pour certains. Mais maintenant, ça continue. Je veux dire, la vie, elle continue bien sûr. Et des rencontres, tu en fais tout le temps. Tu continues à...
C'est vrai que maintenant, je vis plus à la campagne, donc si tu veux, je vais beaucoup moins à Paris, parce que Paris me gave un peu, tu vois, c'est devenu un peu pénible, Paris, mais bon, j'y vais pour faire des concerts, des choses comme ça, mais donc je rencontre des gens différents aussi à la campagne, puis je rencontre des musiciens, oui, moi tu sais, j'adore découvrir, chercher des gens qui vont m'amener dans une autre histoire, comme ça, là j'ai des histoires aussi là pour jouer un peu dans le sud de la France avec d'autres personnes que je connais à peine. Moi, je dis oui à beaucoup de choses, pour le plaisir de jouer et puis d'amener peut-être quelque chose à leur histoire.
Et tant mieux si ça se passe bien, et c'est pas grave si ça se passe mal, c'est ça l'idée, non ?
Exactement, oui, mais de toute façon, moi, je suis assez intuitif pour le sentir au début. Parce que tu vois, si les humains ils sont bons, ou si vraiment,
s'ils jouent un rôle, quoi.
Un truc authentique, disons. Si c'est les mecs qui sont pas bah, toi pareil, tu sais ce que c'est, t'en as vu des gens et tu ressens les choses, tu sens que bon.
La première impression est souvent la bonne.
Oui, exactement, ouais. Voilà, c'est exactement ça.
Alors, ça marche pas à 100% parce qu'aucune science n'est exacte, mais non. Voilà, bon, en général, bon, après, si, j'ai l'impression qu'on se dit la même chose, si on a pas envie a priori de plus connaître la personne ou de la côtoyer, bah faut juste aller ailleurs et puis c'est pas grave.
Oui, faut aller ailleurs. Ouais. Ou des fois, moi je tente, je dis bon allez, je sens pas terrible, mais bon je tente. Et là souvent je veux dire ah bah oui j'avais raison. Ou des fois ah je me suis trompé parce que le mec finalement il était timide tout ça et je me rendais pas compte ou du moins il s'était pas ouvert, tu vois, c'est toujours comme ça, tu bois une bière ou deux, tu s'ouvres, il te parle, il te raconte des choses que tu vois que tu ne sais pas et puis ça est différent, il y a des chemins comme ça. Bon, c'est la vie, hein, tu connais comme moi, hein.
C'est vrai, c'est la vie. Bah, je te suis de peu, hein, moi je suis de 63, tu vois, donc
on est la même génération, ouais.
Ton vrai nom c'est quoi, Diabolo?
Alors mon vrai nom c'est Olivier, mon prénom, ouais. Olivier,
ouais.
Pas, et c'est mon nom, c'est Palsou, Paltsou. Et j'ai appris récemment, je pensais au début d'avoir des origines grecques, mais puis j'ai des origines russes.
D'accord.
C'est pas le moment de le dire, mais bon.
Non, mais...
ma mère était de Belgique.
Diabolo, il y a des tas de disques sur lesquels tu apparais. Est-ce qu'il y en a quelques-uns sur lesquels figure ton nom en tout gros? C'est un disque de Diabolo Diabolux? Ça existe, ça?
Ah, oui, moi j'ai juste fait un disque qui est Harmonica Road. C'était une commande un peu. C'est-à-dire qu'ils voulaient des morceaux un peu connus, aussi bien de Bob Dylan, Sweet Home Chicago, tout ça, avec une face avec moi qui jouait, et les mêmes morceaux sans l'harmonica pour que les gens puissent bosser en écoutant, ils écoutaient le morceau, et hop, ils pouvaient mettre le playback. Ah yes, ça s'appelle Harmonica Road.
C'est voilà. Comme une méthode d'harmonica, mais sans solfège.
Oui, à ma façon, sans solfège, voilà. Mmh. Et sans tablature.
Je pense aux jeunes harmonicistes, ou aux moins jeunes, en tout cas ceux qui voudraient s'y mettre. Est-ce qu'on peut toujours trouver cette méthode, Diabolo?
Ben, je sais qu'elle... Oui, parce que j'ai vu des gens qui, sur, je sais pas si sur des Amazon ou des choses comme ça, j'ai vu sur Internet, en tout cas, si tu tapes Harmonica Road, je sais qu'il y a encore des disques qui se vendent, oui. Bon, le mec a dû faire faillite à une époque parce que, à mon avis, j'ai plus entendu parler de lui, et puis voilà. Donc, mais...
Ou alors, il en a vendu des millions en Belgique et en Suisse, et
il est parti avec la caisse. Non. Oh, bah oui, de toute façon, c'était pas quelqu'un de très très honnête, de toute façon, à la base, mais d'accord. C'était pas grave.
Bon, Diabolo, alors moi, en tout cas, je peux te dire une chose, j'étais ravi vraiment de discuter avec toi et puis d'évoquer aussi, toute cette carrière. C'était peut-être une quarantaine d'années de carrière, c'est ça dire.
Là, on aurait pu en parler encore un bon moment, mais bon, c'est une émission, hein,
oui.
c'est cadré.
Et alors justement, l'avenir, c'est ça, on est en 2023, quels sont tes projets, quels sont les artistes avec qui tu vas te produire prochainement, et où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver sur une scène quelconque, à Paris ou ailleurs?
Eh ben, pour l'instant, moi, grâce au Facebook, je mets bien sûr toutes mes dates au fur et à mesure. D'accord. Donc les gens ont Facebook, ils le savent. Sur mon site là, que Richie Farem a fait justement, je vais mettre les dates, tout ce qui va arriver. Et donc moi, je suis un peu au jour le jour dans la vie. Et là, j'ai construit dans la campagne. Là, j'ai construit un studio là qui est presque fini. Et je vais mettre moi à travailler mes morceaux, ma musique. Il est jamais trop tard. Mmh. Et donc j'ai envie parce que je joue de la basse un peu à ma façon, de la guitare, la programmation. Et là, j'ai envie de faire mes morceaux et voir un peu ce qui se passe.
Très bien.
Mais même chanter un peu, voilà.
Et même chanter un peu. Eh ben oui, alors on va retenir aussi.
Pourquoi pas.
On pourrait pas citer tous les musiciens avec qui tu t'es produit, bien sûr. On en a cité déjà pas mal. Mais tout récemment, il y a un garçon, je pense à Pat Kebra, là, qui produit cet album. Ce garçon s'appelle Fab's Oreille. Tu te produis avec lui?
Ah oui, alors Fab's Oreille, oui. Je l'avais connu il y a 20 ans. Là, il m'avait appelé. J'avais fait un morceau ou deux sur son album. Et puis on s'est plus vu. Et là, je tourne en ce moment avec lui. On a fait 3-4 dates là. Et puis on en a pas mal qui arrivent. Et alors lui, c'est un mec super aussi, vraiment un pur et dur, un artiste autant qu'il y a un guitariste chanteur qui a ses textes, ses musiques à lui, et qui a vraiment, et sur scène tous les deux, on s'entend très très bien, ça fonctionne très très bien.
Yes.
Voilà.
Et donc, puis pour être complet aussi, enfin on ne sera jamais avec toi, j'ai l'impression qu'on peut toujours en découvrir. Mais Blue Fever se produit aussi avec Roddy Julienne.
Oui.
Voilà, un autre talent qui est un petit peu inconnu des circuits blues aussi, enfin inconnu de mes services, on va dire.
Oui, bien sûr. Et lui, il a plutôt fait des comédies musicales. Je connais pas très bien sa carrière, mais en tout cas, c'est un excellent chanteur, un mec super gentil, quelqu'un de bien, et qui surtout qui a une pêche sur scène, et qui est là, on joue à la Dame de Canton, là, dans quelques jours, et je sens que ça va être une bombe, le concert.
Très bien.
Ça va vraiment, je pense, ça va chauffer.
Très bien.
Merci beaucoup, Marc.
C'est moi qui te remercie. C'était très, très agréable. Je te laisse le mot de la fin. Je voudrais que tu puisses, si tu en as envie, en tout cas, t'adresser aux auditeurs. Ce sont des gens qui écoutent du blues, mais pas que. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire, Diabolo?
Eh ben, en ce moment, je trouve que c'est une époque un peu difficile. Moi, je me pose beaucoup de questions et surtout, il faut aller vers la beauté. Il faut vraiment faire le plus possible ce qu'on aime. Il faut penser à sa santé. Il faut vraiment penser à soi, toujours en pensant aux autres, mais bon, faut prendre soin de soi, voilà. Mmh.
Si tu avais dit ça au Diabolo de 20 ans, au Diabolo de 1982, est-ce que le Diabolo de 1982 t'aurait écouté?
Absolument, oui. Moi, j'ai toujours eu de ces philosophies du respect et de faire attention. Bon, j'ai fait des bêtises dans ma vie, mais maintenant, c'est vrai qu'on s'assagit, évidemment. Mais bon, j'ai toujours fait attention à l'autre, en tout cas, de toute ma vie. De toute ma vie.
C'est une sage et belle parole, Diabolo. Je te remercie pour tout
oui,
ça.
Oui,
c'est
comme ça. J'y peux rien.
Je te souhaite encore une longue carrière pour les 40 prochaines années.
Et toi aussi, une très très belle route.
À très bientôt.
À bientôt, Marc. Salut.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir, salut, Marc.
Merci à Diabolo. Tout au long de cette interview, on a pu écouter Homework de Nine Below Zero, Banlieue Boogie Blues et Cult Movie de Jacques Higelin. chez Jacques Martin. Et oui, Diabolo Diabolus qui s'était installé là-bas le temps de 3 minutes. Tout le monde, un extrait d'un titre de Mano, Les mots bleus de Christophe, Mademoiselle chante le blues de Patricia Cass, et deux titres de Blue Fever, Spending Cabbage, et celui qu'on entend derrière, Highway Rock. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un spécial 40 ans de radio qui promet salut, bye bye.